Mars. Les classes du soir. Papa m'a conduit hier à la section Barrette pour assister au cours du soir. Quand nous sommes arrivés, les classes étaient déjà éclairées et les élèves commençaient à venir. Le directeur était furieux parce qu'on venait de casser une vitre à coups de pierre. Le portier s'était élancé aussitôt au dehors et avait arrêté un gamin, lequel protestait en pleurant de son innocence. Stardi, qui demeure en face de l'école, arriva sur ses entrefaites. « Ce n'est pas lui, » dit-il en désignant le petit garçon tout en larmes. « C'est Franti qui a jeté les pierres. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Il m'a menacé de me battre si je parlais, mais je n'ai pas peur de Franti. » Aussitôt, on relâcha le gamin et le directeur dit à papa que demain, sans rémission, Franti sera chassé de l'école. Certes, je n'aime pas Franti, c'est un mauvais camarade, mais cette menace m'a serré le cœur. Je n'avais jamais vu les classes du soir. C'est très intéressant, très édifiant surtout. Il y avait là près de 200 ouvriers de tout âge, des garçons de 12 à 13 ans et des hommes portant la barbe qui revenaient de leur travail et venaient étudier, des menuisiers, des mécaniciens à la figure noircie, des maçons aux mains blanchies de chaux, des garçons boulangers aux cheveux enfarinés. Il s'exhalait de la classe une odeur indéfinissable de vernis, de cuir, d'huile, de goudron, enfin une odeur de tous les métiers réunis. Il entra des artilleurs, vêtus de l'uniforme et conduits par un caporal. Il fallait voir comme ces écoliers étaient lestes à prendre place sur nos bancs, et avec quelle application ils se mettaient à leurs devoirs. Quelques-uns, munis de leurs cahiers ouverts, allaient demander des explications au professeur, et je vis le jeune professeur que nous appelons le petit avocat, entouré de 3 ou 4 ouvriers dont il corrigeait les devoirs. Il riait en montrant à un garçon teinturier son cahier maculé de taches rouges et bleues. Je vis aussi M. Perbonne, mon cher maître, qui est guéri et reprendra demain sa classe. J'en fus tout content. Les portes des classes restaient ouvertes. Les leçons commencèrent. Je fus surprise et émerveillée de l'attention avec laquelle ces hommes, ces élèves, écoutaient attentivement le professeur. Parmi eux, il s'en trouvait, paraît-il, qui n'avaient pas eu le temps de rentrer chez eux dîner. Ils devaient avoir faim après avoir travaillé toute la journée. Les petits, par exemple, au bout d'une demi-heure de leçon, tombaient de sommeil, la tête sur le pupitre. Le professeur les éveillait doucement en les caressant du bout de sa plume d'oie. Mais les grands étaient attentifs, les yeux fixés sur le professeur. On aurait entendu une mouche voler quand il expliquait la leçon. J'étais fier de voir nos places d'écoliers enfants occupées par ces hommes. Cela me relevait à mes propres yeux. Ah, si nous pouvions imiter les élèves du soir et nous tenir comme eux! À mon banc, sur mon pupitre, se trouvait un jeune homme à moustache et barbiche, un ouvrier mécanicien sans doute. Il avait un des doigts de la main droite blessé, entouré de linge, et pourtant, il s'efforçait à écrire doucement pour faire comme les autres. Quel exemple pour moi! Ce qui me fit le plus de plaisir, ce fut de voir la place du petit maçon occupé par son père. Ce géant était mal à l'aise dans le petit coin où il serrait ses coudes. C'est lui, paraît-il, qui a demandé au directeur la faveur de s'asseoir à la place de son petit museau de lièvre. C'est ainsi qu'il appelle son fils, et on lui a accordé tout de suite ce qu'il désirait. Je restais là, avec papa, jusqu'à la fin du cours. C'était une leçon aussi pour moi. Une leçon d'attention et de maintien dont je ferai mon profit. À la sortie, il se trouvait beaucoup de femmes avec un bébé sur les bras qui attendaient leur mari et aussitôt que celui-ci paraissait à la porte de l'école, l'enfant tendait ses petites mains vers le père qui le prenait en l'embrassant. La femme, en échange, portait les livres et les cahiers. Plus d'une disait « Dépêchons-nous, la soupe va refroidir !» Et ils s'en allaient par groupe vers leur demeure. La rue fut pendant un instant pleine de bruit et de monde, puis chacun partit de son côté, le silence se fit et je ne vis plus que la silhouette du directeur dont la démarche lente trahissait la fatigue. Le premier à arriver, le dernier à partir de l'école, ce cher directeur. Oh, comme je vais bien travailler ce matin pour ressembler aux écoliers d'hier soir. La lutte, dimanche 5. Il fallait s'y attendre. Franti, chassé par le directeur, a voulu se venger. Il attendait Stardi à un coin de rue, à l'heure où il revient avec sa sœur, qu'il va prendre à sa pension de la rue Dora Grossa. Ma sœur Sylvia, en sortant de la sienne, vit le coup et revint à la maison tout effrayée. Voici ce qui était arrivé. Franti, coiffé de sa casquette de toile cirée inclinée sur l'oreille, courut sur la pointe du pied derrière Stardi et, pour le provoquer, tira violemment la natte de sa petite sœur, si violemment qu'il jeta presque la fillette par terre. L'enfant poussa un cri, son frère se retourna. Franti, qui est beaucoup plus grand et plus fort que Stardi, pensait « Ou il ne soufflera mot, ou je lui casserai les côtes !» Mais Stardi ne réfléchit pas une seconde. Petit et lourdeau comme il est, il s'élança sur le grand vaurien et commença à lui lancer une grêle de coups de poing. Il n'y réussissait guère d'ailleurs, et il en recevait plus qu'il n'en donnait. Dans la rue, il n'y avait que des fillettes, personne pour les séparer. Stardi, jeté par terre, mais relevé aussi vite, se lance de nouveau sur l'autre. Franti tapait dessus comme sur une porte. En un moment, il lui arrache la moitié de l'oreille et lui poche un œil. Stardi saignait du nez, mais il s'acharnait et rugissait. « Tu me tueras, mais je te le ferai payer cher !» Une femme cria d'une fenêtre. « Bravo, le petit !» D'autres disaient « C'est un frère qui défend sa sœur. Courage, tape dur !» Et elle criait à Franti « Grand tyran, grand lâche !» Mais Franti, enragé, donna un croque-en-jambe à Stardi qui tomba sous lui. Franti dessus à coups de pieds et à coups de poing. Stardi dessous à coups de tête et à coups de talon. « Rends-toi ! Non ! Rends-toi ! Non !» Et d'un bond, Stardi se remit sur pied, s'accrocha à la taille de Franti, d'un furieux effort le jeta sur la chaussée et lui mit le genou sur la poitrine. « Oh, l'infâme qui tire son couteau !» cria un homme accourant pour désarmer Franti. Déjà Stardi, hors de lui, avait pris le bras de Franti à deux mains et l'avait mordu si fort au poignet que le couteau était tombé de ses doigts. D'autres personnes étaient accourues, on entourait les enfants, on les relevait. Franti s'enfuit, fort maltraité. Stardi demeura sur le champ de bataille, le visage en sang, l'œil poché, mais vainqueur. Sa petite sœur pleurait à ses côtés, tandis que des fillettes recueillaient les livres et les cahiers éparpillés dans la rue. « Bravo, le petit qui a défendu sa sœur !» disait-on autour de lui. Stardi, qui pensait plus à sa gibecière qu'à sa victoire, se mit tout de suite à examiner l'un après l'autre ses livres et ses cahiers pour s'assurer qu'il n'y manquait rien, qu'il n'y avait rien de gâté. Il essuya le tout avec sa manche, regarda son porte-plume, remit chaque objet à sa place, puis, tranquille et sérieux comme toujours, il dit à sa sœur « Allons-nous-en vite, j'ai un problème de 4 opérations à faire. » Les parents, lundi 6. Ce matin, le gros monsieur Stardi père attendait son fils de peur d'une nouvelle rencontre avec Franti. On dit cependant que nous ne le verrons plus, ce gamin, et qu'il sera mis dans une maison de correction. Il y avait beaucoup de parents ce matin dans le vestibule, entre autres le marchand de bois, le père de Coretti. Tout le portrait de son fils, svelte, allègre, avec ses moustaches grisonnantes et son ruban à la boutonnière. Je finis par connaître tous les parents à force de les voir toujours là. Il y a une grand-mère courbée, coiffée d'un bonnet blanc, qui, par la pluie ou la neige, vient 4 fois par jour accompagner son petit-fils, élève de première supérieure. Elle lui ôte son pardessus, le lui remet, lui arrange sa cravate, les poussettes, lui lisse les cheveux, garde ses cahiers. On comprend qu'elle n'a pas d'autre pensée, qu'elle ne voit rien de plus beau au monde. Il vient souvent aussi le capitaine d'artillerie, le père de Robetti, de celui qui a sauvé un enfant. Et comme tous les camarades, en passant près de lui, font une caresse à l'héroïque petit blessé, le père rend les saluts et les poignées de main à tous les amis de son fils, sans en accepter un seul. Plus ils sont petits ou mal habillés, plus il paraît content et les remercie. On voit quelquefois des choses tristes, par exemple une dame qui ne venait plus depuis un mois parce qu'elle a perdu un enfant et qui envoyait chercher l'autre par la bonne. Elle est venue hier, mais en revoyant la classe et les camarades de son petit mort, elle a éclaté en sanglots. Le directeur l'a prise par le bras et entraînée dans son bureau. Il y a des pères et des mères qui connaissent par cœur tous les noms des camarades de leur fils. Il y a des jeunes filles de la section voisine, des élèves des lycées voisins qui viennent attendre leurs frères. Il y a un vieux colonel en retraite qui, lorsqu'un enfant laisse tomber une plume ou un cahier, le lui ramasse. On voit aussi des dames très bien mises qui parlent des choses de l'école, avec des femmes coiffées de fichus, le panier sous le bras, et qui disent « Ah, le problème était terrible cette fois !» Il y avait une leçon de grammaire à n'en plus finir ce matin. Et lorsqu'il y a un malade dans une classe, elles le savent toutes et se réjouissent quand il va mieux. Justement, ce matin, elles étaient 8 ou 10 ouvrières et dames autour de la mère de Crosse, la fruitière ambulante, pour lui demander des nouvelles d'un pauvre petit de la classe de mon frère qui habite dans sa cour et qui est en danger de mort. On dirait que l'école égalise les positions et fasse des amis de tout le monde. Le numéro 78. Mercredi 8. J'ai assisté à une scène émouvante. Depuis quelques jours, chaque fois que la fruitière passait près de Derossi, elle le regardait avec une expression de grande affection. Il faut dire que depuis que Derossi a fait la découverte de l'encrier et du prisonnier numéro 78, il a pris en amitié Crosse, son fils, celui qui a les cheveux rouges et le bras inerte. Il l'aide à faire ses devoirs à l'école, lui souffle les réponses, lui donne du papier, des plumes, des crayons, en somme le traite comme un frère pour le compenser du malheur arrivé à son père et que le fils ignore. Il y avait donc plusieurs jours que la fruitière ne quittait pas des yeux Derossi, car c'est une brave femme qui ne vit que pour son garçon et, grâce à Derossi, se fit chérie et aidée et bien notée grâce à Derossi, qui est un monsieur et qui est le premier de la classe. Derossi, pour elle, c'est un roi, c'est un saint. Elle le regardait toujours comme si elle eût voulu lui dire quelque chose sans oser le faire. Hier matin, cependant, elle l'arrêta sous une porte et lui dit « Excusez-moi, mon jeune monsieur, mais vous êtes si bon pour mon fils que vous me ferez la grâce d'accepter ce souvenir d'une pauvre mère. » Et elle tira de son panier d'herbe une boîte de carton doré. Derossi rougit et refusa net. « Donnez cela à votre fils, dit-il, je n'accepte rien. » La femme demeura honteuse et s'excusa en balbutiant. « Je ne pensais pas vous offenser, ce ne sont que des caramels. » Mais Derossi fit encore un signe de refus. Alors, timidement, elle tira de son panier une botte de radis et murmura « Acceptez au moins cela, ils sont frais et vous les porterez à votre maman. » Derossi sourit et répondit « « Non, merci, je ne veux rien. Je ferai toujours ce que je pourrai pour Crosse, mais je ne puis rien accepter. Merci quand même. »« Je ne vous ai pas offensé ?» demanda anxieusement la fruitière. Derossi dit « Non, non !» en souriant et s'en alla, tandis qu'elle s'écriait toute joyeuse. « Oh, le bon garçon ! Je n'ai jamais vu un brave et beau garçon comme celui-là » On aurait cru que c'était fini. Mais voilà que le soir, à 4 heures, au lieu de la mère de Crosse, ce fut le père qui se trouva là, avec sa mine triste et mélancolique. Il arrêta Derossi, et de la façon dont il le regarda, je compris qu'il soupçonnait de connaître son secret. Il le regarda fixement, et puis il lui dit, d'un son de voix triste et affectueux, « Vous aimez mon fils, pourquoi l'aimez-vous tant ?» Derossi devint rouge comme le feu. Il aurait voulu répondre, « Je l'aime parce qu'il est malheureux, parce que vous aussi, son père, vous avez été plus malheureux que coupable, parce que vous avez expié votre faute, parce que vous êtes un homme de cœur. » Pourtant, le courage lui manqua pour le dire. Au fond, il éprouvait encore une certaine frayeur, une certaine répugnance à parler à un homme qui avait versé le sang d'un autre et qui était resté 6 ans en prison. Mais l'autre devina tout. Et, baissant la voix, il dit à l'oreille de Derossi d'une voix tremblante « Vous aimez l'enfant, mais vous ne haïssez pas, vous ne méprisez point le père, n'est-ce pas ?»« Oh non, non, tout au contraire !» s'écria Derossi avec un grand élan de cœur. Alors l'homme eut un geste impétueux, comme pour prendre Derossi dans ses bras, mais il n'osa pas et se contenta de toucher de ses doigts l'une des boucles blondes de l'écolier. Puis, la lâchant, il mit sa main sur sa bouche et en baisa la paume en regardant Derossi avec des yeux humides, comme pour lui dire que ce baiser était pour lui. Ensuite, il prit son fils par la main et s'en alla à pas pressés. Le petit mort. Lundi 13. Le petit enfant qui demeurait dans la cour de la fruitière, le camarade de mon frère à la classe de première supérieure, vient de mourir. L'institutrice Delcati arriva samedi, tout affligée, annoncer la nouvelle à M. Perboni, et aussitôt Garonne et Corretti s'offrirent pour porter le cercueil. C'était un brave enfant, ce pauvre petit. Il avait obtenu la médaille la semaine précédente. Il aimait bien mon frère et lui avait donné une tirelire cassée. Maman le caressait toujours quand elle le rencontrait. Il portait une casquette avec deux rayures de drap rouge. Son père est portefait au chemin de fer. Hier soir, dimanche, à 4h30, nous sommes allés à la maison mortuaire pour accompagner à l'église le petit cadavre. La cour était pleine d'enfants de la première supérieure avec leur mère. 5 ou 6 maîtresses et quelques voisins portaient des cierges. L'institutrice à la plume rouge et Madame Delcati étaient entrées et, par la fenêtre ouverte, nous les voyions pleurer. On entendait aussi la pauvre mère qui pleurait à fendre l'âme. Deux dames, mères de deux compagnons d'école, avaient apporté des guirlandes de fleurs. À 5 heures précises, nous nous mîmes en route. Devant marchait un enfant de cœur portant la croix, puis un prêtre, puis venait le cercueil, tout petit, pauvre enfant, lequel était voilé d'un drap noir recouvert par les guirlandes fleuries. Sur le drap noir, on avait attaché la médaille et 3 mentions honorables que l'enfant avait gagnées à l'école pendant l'année. Garonne, Corretti et 2 garçons du quartier portaient le cercueil. Madame Delcati le suivait, pleurant comme si l'enfant eût été le sien, et derrière elle, les autres maîtresses, puis leurs élèves, dont les plus petits avaient des bouquets de violettes d'une main et donnaient l'autre main à leur mère qui portait le cierge pour eux. Ils regardaient le cercueil tout étonnés et j'en entendis un qui demanda « Et maintenant, est-ce qu'il ne viendra plus à l'école ?» Quand la bière sortit de la maison, on entendit de la fenêtre un cri désespéré. C'était la mère que l'on fit rentrer tout de suite dans la chambre. Arrivés dans la rue, nous rencontrâmes les élèves d'un collège qui cheminaient en double file et tous, voyant le cercueil, la médaille et les maîtresses, s'inclinèrent respectueusement. Pauvre petit mort, il va dormir pour toujours avec sa médaille, nous ne verrons jamais plus sa petite casquette à galons rouges. Il se portait bien, en 4 jours il a disparu. Le dernier jour, il s'efforça encore de se lever pour faire son devoir et il voulut avoir sa médaille sur son lit, de peur qu'on ne la lui prît. Personne ne te la prendra plus, pauvre enfant. Adieu, adieu. Nous nous souviendrons toujours de toi à la section Barrette. Dors en paix, petit enfant. La veille du 14 mars. Aujourd'hui, la journée a été des plus gaies. 13 mars, la veille de la distribution des prix au théâtre Victor-Emmanuel, la belle fête de tous les ans. Cette fois, les enfants qui doivent aller sur scène présenter la liste des élus aux messieurs qui distribuent les prix n'ont pas été nommés au hasard. Le directeur vient nous dire ce matin après le finis. « Mes enfants, une bonne nouvelle !» Puis il appela. « Coraci !» Le Calabré se leva. « Veux-tu être au nombre de ceux qui portent les listes aux autorités demain au théâtre ?» Le Calabré répondit affirmativement. « C'est bien, » dit le directeur. « Comme cela, il y aura aussi un représentant des Calabres. » La municipalité a voulu cette année que les 10 ou 12 enfants qui présentent les prix aux autorités appartinssent à différentes provinces d'Italie et fussent pris dans diverses écoles publiques de Turin. Nous avons 20 sections et 5 succursales, 7000 élèves. Dans un nombre aussi grand, il n'est pas difficile de trouver des enfants de chacune des régions italiennes. Dans la section Torquato Tasso, on a trouvé 2 représentants des îles, un Sarde et un Sicilien. L'école Buoncompagni a donné un petit Florentin, fils d'un sculpteur sur bois. On a choisi un Romain dans la section Tomasco, puis il a été facile de trouver des Vénitiens, des Lombards, des Romagnols. La section Montvise présente un Napolitain, fils d'un officier. Nous, à la section Barrette, nous donnons un Génois et un Calabrais. C'est beau, n'est-ce pas? Ce seront nos frères de toutes les parties de l'Italie qui offriront les prix. Faites attention qu'ils apparaîtront sur la scène, tous les 12 ensemble, et accueillez-les par des vivats. Ce sont des enfants, mais ils représentent leur pays comme s'ils étaient des hommes. Une petite banderole tricolore n'est-elle pas le symbole de l'Italie, tout autant qu'un grand drapeau ? Applaudissez donc chaudement. Faites voir que vos jeunes cœurs s'allument et que vos âmes de 10 ans s'exaltent devant l'image sainte de la patrie. Cela dit, le directeur s'en alla et le professeur ajouta en souriant. « Donc, Coraci, tu es le député des Calabres. » Tous nous battîmes des mains en riant et lorsque nous fûmes dans la rue, on entoura Coraci, on le prit par les jambes et on le porta sur les épaules en triomphe. On criait « Vive le député des Calabres !» Mais c'était gaieté, ce n'était point de moquerie, au contraire, on faisait fête à Coraci. C'est en effet un garçon qui nous plaît à tous. Souriant de son triomphe, il fut porté ainsi jusqu'au coin de la rue où l'on se trouva nez à nez avec un monsieur à barbe noire, lequel se mit à rire. « C'est mon père !» dit le Calabrais. Et alors, les camarades lui mirent son fils dans les bras et se sauvèrent dans toutes les directions. La distribution des prix, 14 mars. Vers 2 heures, le grand théâtre était plein, parterre, galerie, loge, scène. On voyait des milliers de visages, enfants, dames, professeurs, ouvriers, femmes du peuple, bébés. C'était une agitation de têtes et de mains, un ondoiement de plumes, de rubans et de bouquets, un murmure continuel et gai qui vous mettait en belle humeur. Le théâtre était orné de guirlandes aux couleurs nationales. Dans l'orchestre, on avait construit 2 escaliers, un à droite, par lesquels les lauréats devaient monter, un à gauche, par lequel ils devaient descendre. Sur le devant de la scène se trouvait une rangée de fauteuils de velours rouge, et sur le dossier de celui du milieu pendait une petite couronne de laurier. D'un côté était placée une table couverte d'un tapis vert, où des livres reliés attachés par des rubans tricolores attiraient la convoitise des écoliers. La musique était à sa place habituelle devant la scène. Les professeurs et les institutrices remplissaient la moitié de la première galerie réservée à leur intention. Sur les banquettes du parterre avait été placée 100 d'enfants qui devaient chanter et tenaient leurs morceaux de musique à la main. Au fond et tout autour du théâtre, on voyait aller et venir des maîtres et des maîtresses qui classaient les lauréats, entourés à leur tour par les parents, mettant une dernière main à la cravate ou à la coiffure. À peine entré avec les miens au balcon, je vis à la galerie de face l'institutrice à la plume rouge qui riait avec ses belles fossettes aux joues et près d'elle l'institutrice de mon frère et la petite religieuse, toutes vêtues de noir, ainsi que ma bonne maîtresse de première supérieure. Mais elle était si pâle, la pauvre femme, et toussait si fort qu'on l'entendait d'un côté à l'autre du théâtre. Au parterre, j'aperçus bien vite le cher Garrone, et, à côté de lui, appuyé à son épaule, la tête blonde de Nelly. Un peu plus loin, je vis Garoffi avec son nez en bec de corbin. Il se donnait beaucoup de mal pour avoir la liste imprimée des lauréats, et en avait cependant déjà un gros paquet, pour spéculer encore là-dessus, sans doute, à sa façon. Près de la porte se trouvaient le marchand de bois et sa femme, en habit des dimanches, assis près de leur fils Coretti, qui a un 3e prix. Cette fois, Coretti ne portait plus son jersey loutre et son béret en poil de chat. Il était habillé comme un petit monsieur. À une galerie, je vis un instant Votini avec une grande collerette dentelée, puis il disparut. Il y avait dans une avant-scène pleine de monde le capitaine d'artillerie Robetti, le père de celui qui porte béquille et qui a sauvé l'enfant tombé sous l'omnibus. À 2 heures sonnant, la musique commença à jouer et, en même temps, on vit monter sur la scène par l'escalier de droite le maire, le préfet, l'assesseur, le proviseur et beaucoup d'autres messieurs en habit noir qui allèrent s'asseoir sur les fauteuils rouges. La musique ayant cessé de jouer, le directeur de la classe de chant s'avança, une baguette à la main. Sur un signe qu'il fit, tous les enfants se levèrent au parterre. Sur un autre signe, ils se mirent à chanter. Ils étaient 700 à chanter une fort belle chanson, 700 voix d'enfants chantant à la fois. Quelle belle chose ! Tout le monde était immobile à les écouter et ce qu'ils chantaient semblait un chant d'église, tant c'était doux, simple et lent. Quand ils se turent, on applaudit, puis le silence se rétablit. La distribution des prix allait commencer. Mon maître de seconde, avec ses cheveux roux et ses yeux vifs, s'était déjà avancé sur la scène pour lire le nom des lauréats. On attendait l'entrée des 12 enfants qui devaient présenter les prix. Les journaux avaient annoncé que ce seraient des enfants de toutes les provinces de l'Italie. On le savait donc, et en les attendant, on regardait curieusement le côté d'où ils devaient venir. Le maire lui-même et les autres notabilités paraissaient attentifs et le théâtre entier se taisait. Tout à coup, on vit la députation arriver au pas de course jusqu'au bord de la scène où ils restèrent plantés là tous les 12 en souriant. Tout le théâtre, 3000 personnes, se leva d'un bond et éclata en applaudissements semblables à un coup de tonnerre. Les enfants demeurèrent un instant déconcertés. Je reconnus tout de suite Coraci le Calabré, vêtu de noir comme toujours. Un membre du conseil municipal qui était avec nous et connaissait les enfants les indiquait à ma mère. « Ce petit blond, disait-il, est le représentant de Venise. Le Romain est celui qui est grand et frisé. » Il y en avait deux ou trois très élégamment vêtus, les autres étaient fils ouvriers, mais tous étaient bien mis. Le Florentin se trouvait être le plus petit. Il portait une écharpe bleue autour de la taille. Ils défilèrent tous les uns après les autres devant le maire qui les embrassa, tandis qu'un monsieur disait au fur et à mesure qu'ils passaient « Florence, Naples, Bologne, Palerme. » Et à chaque enfant qui passait, le théâtre battait des mains. Puis ils coururent à la table verte prendre les prix et le maître commença à lire la liste, disant les sections, les classes, les noms. Les lauréats montèrent sur la scène et se mirent à défiler. Les premiers étaient à peine montés qu'on entendit venir des coulisses une musique légère et douce jouée par des violons. Cette musique dura tout le temps du défilé. C'était un air si doux, si égal, si charmant qu'on eût dit un murmure de voix, les voix de toutes les mères, de tous les professeurs et des maîtresses qui donnent des conseils ou font des reproches affectueux. Et les lauréats venaient les uns après les autres devant les messieurs qui leur remettaient les prix et disaient à chacun une parole aimable ou leur faisaient une caresse. Du parterre et des galeries, les enfants applaudissaient chaque fois qu'il passait un lauréat très jeune ou un de ceux qui, par ses vêtements, semblaient être pauvres. Il y en avait appartenant à la petite classe qui, arrivés sur la scène, ne savaient que faire, paraissaient embarrassés et tournaient sur eux-mêmes aux éclats de rire du théâtre. Il en vint un tout petit, entre autres, avec un grand nez rose retenant ses cheveux bouclés, qui marchait timidement et tomba en se prenant les pieds dans le tapis. Le préfet le releva et on se mit à rire en applaudissant. Un autre tomba dans les escaliers en descendant. On entendit des cris, mais il ne s'était fait aucun mal. Il passa des enfants de toutes sortes, au visage fripon, à la mine épouvantée, d'autres rouges comme des cerises, et de tout petits, aux joues bouffies qui souriaient à tout le monde. À peine descendus au parterre, ceux-là étaient pris dans les bras de leur papa ou de leur maman, qui les emportaient dehors. Quand vint le tour de notre section, c'est alors que je fus content. On en appela beaucoup que je connaissais. D'abord vint Coretti, vêtu de neuf des pieds à la tête, son beau visage épanoui, montrant ses dents blanches dans un sourire. Et qui sait pourtant combien de myriagrammes de bois il avait porté le matin. Le maire, en posant la main sur son épaule, lui demanda, tout en lui donnant son prix, quelle était la marque rouge qu'il avait sur le front. Je cherchai des yeux au parterre son père et sa mère, et je vis qu'ils riaient en se couvrant la bouche de leurs mains. Desros y passa à son tour, vêtu d'un habit bleu foncé à boutons d'acier. Svelte, élégant, le front haut, inondé par ses cheveux blonds bouclés, si beau et si sympathique que je lui aurais volontiers envoyé un baiser. Ces messieurs voulurent tous lui parler et lui serrer la main. Puis le maître appela « Jules Robetti ». On vit venir alors avec ses béquilles le fils du capitaine d'artillerie. Des centaines d'élèves savaient la cause de son accident, le bruit s'en répandit aussitôt et une salve d'applaudissements éclata, ébranlant tout le théâtre. Les hommes se levèrent, les femmes agitèrent leurs mouchoirs et le pauvre enfant, confus et tremblant, s'arrêta au milieu de la scène. Le maire attira Robetti à lui, l'embrassa, détacha du dossier de son fauteuil la couronne de laurier qui y était attachée et l'enfila dans la traverse d'une des béquilles. Puis il accompagna jusqu'à l'avant-scène où était le capitaine d'artillerie, le père du valeureux enfant, et celui-ci l'enleva et le porta dans la loge, accompagné des vivats et des bravos. La musique, douce et légère, jouait toujours, et les enfants continuèrent à défiler. Ceux de la section de la Consolata, presque tous fils de petits marchands, ceux de la section de Vociglia, fils d'ouvriers, ceux de la section Buon Compagni, en grand nombre fils agriculteurs, enfin ceux de l'école Ranieri, qui fut la dernière. Vers la fin, les 700 enfants placés au parterre entonnèrent une autre chanson fort belle. Puis le maire fit un petit discours, et après lui, l'assesseur termina en disant « Ne sortez pas d'ici, mes enfants, sans envoyer un salut et un remerciement à ceux qui se fatiguent tant pour vous, à ceux qui vous ont consacré toutes les forces de leur intelligence et de leur cœur, qui vivent et meurent pour vous, et que voici. » L'assesseur désigna les professeurs et les institutrices placés aux galeries. À ce touchant appel, qui répondait si bien à leurs sentiments, les enfants se levèrent et tendirent leurs bras vers les maîtres et les maîtresses, qui répondirent en agitant leurs chapeaux et leurs mouchoirs, tous debout, émus certainement de cette manifestation sympathique de la part des écoliers. La musique de l'orchestre joua un nouveau morceau et le public salua une dernière fois les 12 petits représentants des provinces italiennes qui s'avancèrent sur la scène, les mains entrelacées et auxquels on lança des bouquets de fleurs. Une dispute. Lundi 20. Eh bien non, ce n'est point par envie, parce qu'il a eu un prix et moi pas, que je me suis disputé ce matin avec Auretti. Ce n'est pas par envie, mais j'ai eu tort. Le maître l'avait mise à côté de moi. J'écrivais sur mon cahier de calligraphie. Coretti me heurta avec son coude et me fit faire un crochet affreux et tacher d'encre le récit mensuel, sans romagnol, que je copiais pour le petit maçon qui est malade. Je me mis en colère et dis une sottise. Coretti me répondit en riant, « Je ne l'ai pas fait exprès. Je devais le croire car je le connais. » Mais son sourire me déplut et je pensais, maintenant qu'il a obtenu un prix, il est devenu orgueilleux. Un peu après, pour me venger, je le poussai si bien qu'il abîma sa page d'écriture. Alors, tout rouge de colère, « Toi, tu l'as fait exprès !» me dit-il, en levant sur moi la main. Le professeur le regardait. Il baissa sa main, mais ajouta, « Je t'attends à la sortie !» J'étais contrarié, ma colère s'était calmée, et je me repentais déjà. Non, Coretti ne pouvait pas m'avoir poussé exprès, car il est bon. Je me le rappelais lorsque je le vis chez lui, travaillant tout en soignant sa mère malade. Et puis, je l'avais si bien reçu à la maison, mon père l'avait trouvé si fort à son goût. Que n'aurais-je pas donné pour ne pas avoir prononcé la sottise qui m'était sortie de la bouche, pour ne pas avoir eu ce vilain mouvement de vengeance? Je pensais au conseil que m'aurait donné mon père. « Tu as tort ?»« Oui. » « Eh bien, fais-lui des excuses. » Faire des excuses, je n'en avais pas le courage. J'avais honte de m'humilier. Je regardais Coretti de côté, je voyais son jersey décousu à l'épaule, peut-être parce qu'il avait porté du bois, et je sentais que je l'aimais. Je me disais « courage !» Mais le mot « excuse-moi » me restait dans la gorge. Lui me regardait à la dérobée de temps en temps. Il me semblait plus affligé que colère. Mais moi, je le regardais de travers pour qu'il ne crût pas que j'eusse peur. Il me répéta « Nous nous reverrons dehors ». Et je répétais « Nous nous reverrons dehors ». Pourtant, je pensais à ce que mon père m'avait dit un jour. « Si tu as tort, défends-toi, mais ne frappe pas ». Et je me disais en moi-même « Je me défendrai, mais je ne frapperai pas ». Je continuais à être de mauvaise humeur, triste. Je n'écoutais plus la leçon. Enfin, le moment de sortir arriva. Quand je fus seul dans la rue, je vis que Coretti me suivait. Je m'arrêtai et l'attendis, ma règle en main. Il s'avança, je levai ma règle. « Mon Henri, me dit-il avec un bon sourire, en écartant ma règle, redevenons amis comme avant. » Je demeurai stupéfait un moment, puis je sentis comme une main qui me poussait et je me trouvai dans ses bras. Il m'embrassa en disant « Nous ne nous querellerons jamais plus, n'est-ce pas ?»« Jamais plus, jamais plus !» répondis-je. Et nous nous séparâmes contents. Mais lorsque, arrivé à la maison, je racontai tout à mon père, croyant lui faire plaisir, il me gronda en disant « C'est toi qui aurais dû lui tendre le premier la main, puisque tu avais tort. » Il ajouta « Tu ne devais pas lever la règle sur un enfant meilleur que toi, sur le fils d'un soldat. » Et, m'arrachant la règle des mains, mon père la brisa en deux morceaux. San Romagnol, récit mensuel. Ce soir-là, la maison de Ferruccio était plus tranquille qu'à l'ordinaire. Son père, qui tenait une petite boutique de mercerie, était allé à Forlì faire quelques achats, et sa femme l'avait accompagné, ainsi que Luigina, leur petite fille, qu'il conduisait chez l'oculiste pour une opération à l'œil. Il ne devait revenir que le lendemain matin. Minuit allait sonner. La femme de ménage était partie après le dîner, et il ne restait à la maison que la grand-mère, paralysée des jambes, et Ferruccio, un garçon de 13 ans. La maison n'était composée que d'un rez-de-chaussée et se trouvait sur la grande route à une portée de fusil d'un village peu éloigné de Forlì, ville de la Romagne. À côté de la maisonnette, il n'existait qu'une maison déserte, en ruine, qu'un incendie avait dévastée 2 mois auparavant et sur les murs de laquelle on lisait encore l'enseigne d'une hôtellerie. Derrière la maisonnette se trouvait un jardin potager entouré d'une haie où s'ouvrait une petite porte rustique. La porte de la boutique, qui servait aussi de porte d'entrée, donnait sur la grande route. Tout autour s'étendait la campagne solitaire de grands champs plantés de mûriers. Minuit allait sonner. Il pleuvait, le vent mugissait. Ferruccio et sa grand-mère, encore levés, se trouvaient dans la salle à manger. Une chambre encombrée de vieux meubles séparait cette pièce du jardin potager. Ferruccio n'était rentré qu'à 11 heures, après s'être échappé plusieurs heures, pendant lesquelles la grand-mère l'avait attendue pleine d'anxiété, clouée dans un large fauteuil sur lequel la pauvre vieille passait toute la journée et souvent la nuit entière, une douloureuse oppression l'empêchant de demeurer couchée. Il pleuvait et le vent fouettait la pluie contre les vitres. La nuit était obscure, impénétrable. Ferruccio était rentré fatigué, crotté, la jaquette déchirée et le front meurtri par un coup de pierre. On s'était battu à coups de pierre, d'abord pour rire avec les amis, et puis on en était venu aux mains, comme cela arrive toujours. Et pour comble, Ferrucci avait joué et perdu tous ses sous, et son béret était tombé dans un fossé. Bien que la cuisine ne fût éclairée que par une petite lampe à huile, posée sur le coin d'une table près du fauteuil, la pauvre grand-mère avait vu tout de suite l'état pitoyable de son petit-fils, et d'après ses demi-aveux, elle avait deviné une partie de ses mécomptes. Il avait enfin confessé le reste, et comme elle aimait Ferruccio de toute son âme, elle se mit à pleurer. « Oh non !» dit-elle après un long silence. « Tu n'aimes point ta pauvre grand-mère, car sans cela, tu n'aurais pas profité de l'absence de tes parents pour agir ainsi que tu l'as fait. Tu m'as laissée toute la journée seule. Tu n'as pas eu pour moi un peu de compassion. » « Prends garde, Ferruccio, tu prends un mauvais chemin qui te conduira à une triste fin. J'ai vu des enfants commencer comme toi qui sont devenus ensuite de fiefs mauvais sujets. On commence à se sauver de la maison, à se battre avec les camarades, à perdre son argent. Puis, peu à peu, des coups de pierre, on passe aux coups de couteau, du jeu aux autres vices et du vice au vol. » Ferruccio écoutait, debout à quelques pas de sa grand-mère, appuyé contre une armoire, le menton sur la poitrine, les sourcils froncés, tout bouillant encore de la colère où la rixe l'avait mis. Ses cheveux châtains bouclés ombrageaient son front et ses grands yeux bleus immobiles. « Du jeu au vol !» répéta la grand-mère, continuant à pleurer. « Pense-y, Ferruccio, pense à ce mauvais sujet du pays, à ce Victor Mozzoni, maintenant vagabond à la ville, qui, à 24 ans, a été 2 fois déjà en prison. » Il a fait mourir de chagrin sa pauvre mère que je connaissais. De désespoir, son père s'est enfui en Suisse. Pense à ce triste sujet auquel ton père a honte de rendre un salut, qu'on voit toujours en compagnie de malandrins pires que lui, jusqu'au jour où il ira aux galères. Eh bien, je l'ai connu, enfant, ce Mozzoni. Il a commencé comme toi, et tu réduiras peut-être ton père et ta mère à la triste fin de ses parents. Ferruccio se taisait. Il n'avait point un méchant cœur, au contraire. Ses escapades provenaient plutôt d'une surabondance de vie et d'audace que d'un mauvais naturel. Son père en cela l'avait trop gâté. Car, sachant qu'il était capable, au fond, des sentiments les plus nobles et même d'une action grande et généreuse à l'occasion, il lui avait laissé la bride sur le cou, attendant qu'il devint raisonnable de lui-même. Ferruccio était bon, mais obstiné et d'un caractère difficile. Il avait beau avoir le cœur serré par le regret de déplaire à sa grand-mère, il ne lui sortait point de la bouche ces bonnes paroles qui font pardonner. « Oui, j'ai tort, je ne le ferai plus, je te le promets, pardonne-moi. » L'orgueil les renfermait dans son âme, avec la tendresse qui la remplissait pourtant. « Ah, mon enfant !» continua la vieille en voyant Ferruccio rester muet. « Tu ne dis pas un mot de repentir. Tu vois cependant en quel état je suis réduite, bonne à enterrer. Tu ne devrais pas avoir le cœur de faire pleurer la mère de ta mère, si vieille et si voisine de son dernier jour. Ta pauvre nonna, qui t'a toujours tant aimée, qui te berçait des nuits entières quand tu étais petit, se privant de manger pour te porter dans ses bras. Je me disais toujours, cet enfant sera ma consolation. Et au contraire, tu me fais mourir d'inquiétude. Je donnerais volontiers le peu de vie qui me reste pour te revoir bon et obéissant comme jadis. Te rappelles-tu, Ferruccio, quand je te conduisais à l'église ? Tu emplissais mes poches de cailloux et d'herbes et je te ramenais à la maison endormie dans mes bras. Tu aimais bien ta grand-mère alors. À présent que je suis paralysée, j'aurai besoin de ton affection comme de l'air que je respire. Songe que je n'ai rien, plus rien au monde qui m'intéresse. Pauvre demi-morte que je suis, mon Dieu !» Ferruccio allait s'élancer vers sa grand-mère, vaincu par l'émotion, quand il lui sembla entendre un léger bruit, un craquement provenant de la chambre voisine qui donnait sur le potager. Mais il n'aurait su dire si c'était les volets secoués par le vent ou toute autre cause. Il tendit l'oreille. La pluie augmentait. Le bruit recommença. La grand-mère l'entendit à son tour. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle troublée. « La pluie ? » murmura l'enfant. « Ferruccio, dit la vieille en s'essuyant les yeux, « me promets-tu d'être bon et de ne plus faire pleurer ta pauvre nonne ?» Un nouveau craquement l'interrompit. « Mais ce n'est pas la pluie ! » s'écria-t-elle en pâlissant. « Va voir !» Puis elle ajouta aussitôt. « Non, reste ici !» Et elle prit la main de Ferruccio dans la sienne. Ils restaient tous deux retenant leur souffle. On n'entendait que le bruit de l'eau. Puis ils frissonnèrent tout à coup, car ils crurent l'un et l'autre entendre un bruit de pas dans la pièce à côté. « Qui est là ?» demanda Ferruccio haletant. Personne ne répondit. « Qui est là ?» répéta l'enfant, glacé par la peur. Mais il avait à peine prononcé ces trois mots que la grand-mère et le petit-fils poussèrent un cri de terreur. Deux hommes avaient bondi dans la chambre. L'un saisit l'enfant, posant une main sur sa bouche. L'autre serra la vieille à la gorge. Le premier dit « Tais-toi si tu ne veux pas mourir !» Le second « Chut !» et il leva un couteau. L'un et l'autre de ces hommes avaient un masque noir sur le visage. Pendant un moment, on n'entendit que des respirations haletantes et la pluie qui tombait toujours plus serrée. La grand-mère râlait et avait les yeux hors de la tête. L'homme qui tenait l'enfant lui dit à l'oreille « Où ton père met-il son argent ? » L'enfant répondit à voix basse, tandis que ses dents s'entrechoquaient. « Là-bas, dans l'armoire !»« Viens avec moi, » dit l'homme. Il traîna Ferruccio dans la petite chambre, le tenant serré à la gorge. Sur le parquet était une lanterne sourde. « Où est l'armoire ? » demanda-t-il. L'enfant la lui indiqua du doigt. Alors, pour s'assurer de l'enfant, l'homme le jeta à genoux devant l'armoire, le serra entre ses jambes de façon à pouvoir l'égorger s'il appelait, tint son couteau avec ses dents et prit la lanterne d'une main, tandis que de l'autre, il tirait de sa poche une pince qui glissa dans la serrure. Il appuya dessus, la brisa, ouvrit les battants, bouleversa tout, emplit ses poches, referma, ouvrit une seconde fois, chercha encore. Puis il reprit l'enfant par la gorge et le repoussa dans la pièce où l'autre voleur tenait encore la vieille, demi-pâmée, la tête renversée, la bouche ouverte. Celui-ci demanda à voix basse « As-tu trouvé ?» Son compagnon répondit « J'ai trouvé !» et il ajouta « Va à la porte !» Celui qui tenait la vieille courut à la porte du potager, voir s'il n'y avait personne, et appela de la petite chambre d'une voix aiguë comme un sifflet « Viens !» L'autre qui était resté et tenait encore Ferruccio montra le couteau à l'enfant et à la vieille qui ouvraient les yeux et leur dit « Pas un cri ou je reviens vous tuer !» À travers les trous de son masque, ses yeux se fixèrent menaçants sur tous les deux. En ce moment, on entendit au loin, sur la grande route, des gens qui venaient en chantant. Le voleur tourna rapidement la tête vers la porte et ce mouvement brusque fit tomber son masque. « Mozzoni !» s'écria la vieille. « Maudite !» rugit le voleur reconnu. « Tu vas mourir !» Et il se tourna, le couteau levé, sur la vieille qui s'évanouit. L'assassin lança le coup. Mais par un mouvement rapide, jetant un cri désespéré, Ferruccio s'était élancé sur sa grand-mère et l'avait couverte de son corps. L'assassin s'enfuit, heurtant la table et renversant la lampe qui s'éteignit. L'enfant glissa lentement de dessus la grand-mère et tomba à genoux, restant ainsi les bras à la taille de la vieille femme, la tête appuyée sur son sein. Il se passa quelques instants. Il faisait très obscur. Le chant des paysans se perdait dans l'éloignement. La vieille revint à elle. « Ferruccio » appela-t-elle d'une voix à peine intelligible. « Nonna !» répondit l'enfant. La vieille fit un effort pour parler, mais la terreur lui paralysait la langue. Elle resta un moment silencieuse, tremblant de tous ses membres. Puis elle put articuler. « Ils n'y sont plus ?»« Non !»« Ils ne m'ont pas tué !» murmura la vieille d'une voix étouffée. « Non, vous êtes sauvée !» dit Ferruccio faiblement. « Chère nonne, ils ont emporté l'argent. Mais papa avait pris presque tout avec lui. » La grand-mère respira. « Grand-mère !» dit Ferruccio, toujours agenouillé et la serrant à la taille. « Chère grand-mère, vous m'aimez bien, n'est-ce pas ?»« Ferruccio, mon pauvre fils !» répondit-elle en lui mettant une main sur la tête. « Comme tu as dû avoir peur !» « Oh, mon Dieu, Seigneur miséricordieux, allume un peu la lampe. Non, restons dans l'obscurité, j'ai encore peur. »« Grand-mère, reprit l'enfant, je vous ai causé toujours de l'ennui. »« Non, Ferruccio, non, ne dis pas cela, je n'y pense plus, j'ai tout oublié, je t'aime tant. »« Je vous ai toujours causé de l'ennui, continua l'enfant d'une voix tremblante et avec effort, mais je vous ai toujours beaucoup aimé. » « Me pardonnez-vous ? Pardonnez-moi, nonna !»« Oui, mon enfant, je te pardonne de tout cœur. Peux-tu en douter ? Relève-toi, mon chéri, je ne te gronderai plus, tu es bon, tu es si bon. Allumons la lampe, ayons un peu de courage, lève-toi, Ferruccio. »« Merci, grand-mère, » dit l'enfant d'une voix toujours plus faible. « À présent, je suis content. » « Vous vous souviendrez de moi, nonna, n'est-ce pas ? Vous vous souviendrez toujours de moi, de votre Ferruccio. »« Mon Ferruccio !» s'exclama la vieille, stupéfaite et inquiète, lui mettant les mains sur les épaules et penchant la tête comme pour le voir en face. « Souvenez-vous de moi !» murmura encore l'enfant d'une voix qui semblait un souffle. « Donnez un baiser à maman !» « À papa, à Luigina, adieu, nonna !»« Au nom du ciel, qu'as-tu ? » s'écria la grand-mère, palpant avec anxiété la tête de l'enfant alourdie sur ses genoux. Puis elle cria de toutes ses forces avec désespoir. « Ferruccio, 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 mon enfant, mon amour, ange du paradis, au secours !» Mais Ferruccio ne répondit pas. Le petit héros, le sauveur de la mère de sa mère, frappé d'un coup de couteau dans le dos, avait rendu à Dieu sa belle âme, son âme courageuse. Le petit maçon en danger. Mardi 18. Le pauvre petit maçon est gravement malade, le maître nous a dit d'aller le voir, et tous trois, Garonne, Derossi et moi, nous sommes convenus d'y aller. Nous avons invité le fier Nobis pour savoir ce qu'il répondrait. Il nous a dit non sèchement. Votini s'est excusé aussi, peut-être pour ne point blanchir de chaud son bel habit. À la sortie, vers 4 heures, nous allâmes chez le maçon. Il pleuvait à verse. Garonne s'arrêta dans la rue et nous dit, la bouche pleine de pain. Qu'allons-nous lui acheter ? Et il fit sonner 2 sous qu'il avait en poche. Nous mîmes chacun 2 sous pour acheter 3 grosses oranges. Nous montâmes à la mansarde. Arrivé devant la porte, Derossi enleva sa médaille et la mit dans sa poche. Je lui demandai pourquoi. « Je ne sais pas, c'est pour ne pas avoir l'air. Il me semble plus délicat d'entrer sans médaille. » Nous frappâmes à la porte. Le père nous ouvrit. Cet homme paraît un géant. Il avait le visage bouleversé. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Garonne répondit. « Nous sommes camarades de classe d'Antonio et nous lui apportons des oranges. »« Ah, mon pauvre Tonino !» s'écria le maçon en secouant la tête. « J'ai peur qu'il ne puisse plus les manger, vos oranges. » Et il s'essuya les yeux du revers de sa manche. Il nous fit passer devant lui. Nous entrâmes dans une chambre mansardée où le petit maçon dormait sur un lit de fer. Sa mère était agenouillée auprès du lit, le front dans ses mains. C'est à peine si elle se tourna pour nous regarder. Au mur étaient pendues des brosses, une pioche et un tamis à chaud. Sur les pieds du malade, la jaquette du maçon, blanche de plâtre. Le pauvre enfant, amaigri, pâle, le nez effilé, respirait difficilement. Ce cher Tonino, si gentil, si gai, mon petit compagnon, combien aurais-je donné pour te voir faire encore le museau de lièvre, pauvre petit maçon ? Garonne mit une orange sur l'oreiller, auprès de son visage. L'odeur le réveilla. Il prit l'orange, mais la laissa tomber et regarda fixement Garonne. « C'est moi, Garonne !» dit celui-ci. « Me reconnais-tu ?» Un sourire effleura les lèvres du malade. Il tendit avec effort sa main à Garonne, qui la prit entre les siennes, y posa un baiser en disant « Courage, courage, Antonio ! Tu guériras bientôt, tu reviendras à l'école et Monsieur Perboni te mettra à côté de moi. Es-tu content ?» Le petit maçon ne répondit pas. La mère éclata en sanglots. « Oh, mon pauvre Tonino, si bon et si gentil ! Dieu veut nous le reprendre !»« Tais-toi !» lui cria le maçon désespéré. « Tais-toi ou je perds la tête !» Puis s'adressant à nous. « Merci, merci, mes enfants, dit-il. Allez chez vous. Que venez-vous faire ici ?» L'enfant avait refermé les yeux, il semblait mort. « Puis-je vous être utile en quelque chose ?» demanda Garonne. « Non, mon cher monsieur, merci !» répondit le maçon. Et sur ces mots, il nous reconduisit et ferma la porte. Mais nous n'étions pas à moitié de l'escalier que nous l'entendîmes appeler. « Garonne ! Garonne !» Nous remontâmes en hâte tous les trois. « Garonne ! » cria le maçon transfiguré. « Tonio t'a appelé. Voilà 3 jours qu'il ne parlait pas et il t'a nommé 2 fois. Ah, mon Dieu, si c'était bon signe !» « Au revoir, nous dit Garonne, je reste. » Et il suivit le maçon. Derossi avait les yeux pleins de larmes. Je lui dis, « Tu pleures pour Tonio ? Il a parlé, il guérira. »« Je le crois, répondit Derossi, mais je ne pensais pas à lui. Je pensais à Garonne. Est-il bon ? Et a-t-il une belle âme ?